Bonjour à tous et à chacun. Je vous invite à lire ou à écouter la lecture que nous trouvons dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ézéchiel. Je lis quelques versets de ce passage, livre du prophète Ézéchiel au chapitre 47. C'est la vision que nous retransmet le prophète. L'homme me ramena vers l'entrée du temple, et je vis que l'eau jaillissait de dessous le seuil du temple, du côté oriental, la façade du temple étant à l'est, et l'eau s'écoulait du côté sud de l'édifice, en passant au sud de l'autel. L'homme me fit sortir du temple par la porte nord et m'en fit contourner l'extérieur jusqu'à la porte extérieure orientale. Je vis l'eau sourdre du côté droit de la porte. Et un peu plus loin. Puis il me ramena vers le bord du torrent. Lorsque j'y fus revenu, j'aperçus sur les deux rives des arbres en très grand nombre. L'homme me dit, « Ces eaux s'écoulent vers la région est du pays. Elles descendent dans la plaine du Jourdain et se jetteront dans la mer morte. Quand elles se déverseront dans la mer, celle-ci sera assainie. » Partout où passera le double torrent, les animaux foisonneront et pourront vivre, et il y aura beaucoup de poissons, car ces eaux viendront assainir la mer, et la vie se développera sur le passage du torrent. Sur les rives de la mer s'établiront des pêcheurs depuis Ein Gedi jusqu'à Ein Eglaïm. On étendra des filets et les poissons de toute espèce seront très abondants, tout comme dans la mer Méditerranée. Mais ces marais et ces lagunes ne seront pas assainis, ils seront laissés en saline. Le long du torrent, sur chacune de ses rives, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers dont le feuillage restera toujours vert, et dont les fruits ne s'épuiseront jamais. Chaque mois, ils porteront de nouveaux fruits grâce aux eaux provenant du sanctuaire qui les arroseront. Leurs fruits seront bons à manger et leurs feuilles serviront de remède. Je lis encore quelques versets. Dans le livre du Lévitique, au chapitre 2, tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras pas ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu, sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Dans le deuxième livre des Rois, les gens de Jéricho dirent à Élisée, « Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Il dit, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et y jeta du sel et dit, « J'assainis ces eaux. » Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Et les eaux furent assainies, jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Dans le psaume 107, nous lisons, « Il change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée, le pays fertile en pays salé à cause de la méchanceté de ses habitants. » Et pour finir, dans le Nouveau Testament, une parole bien connue dans Matthieu 5. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est sur cette parole de Jésus que nous allons réfléchir pendant quelques moments pour cette méditation. Nous avons là donc un élément de l'enseignement de Jésus à ses disciples. Vous êtes le sel de la terre. L'utilité du sel dans la vie courante est une image de l'utilité des chrétiens dans le monde. Jésus répond à des questions essentielles, des questions d'identité, qui sommes-nous? Et des questions d'utilité, à quoi servons-nous? Jésus donne ce qu'il ordonne. Nous connaissons le sel de la mer, bien sûr, mais il y a aussi le sel de la terre. Arrêtons-nous quelques instants sur la signification de l'image du sel pour les gens de la Palestine. Les habitants de la Palestine vivaient dans le voisinage de la mer morte, appelée la mer de sel. Et cette mer de sel se prolongeait au sud par la vallée du sel. C'est impressionnant de voir la mer morte. C'est encore plus impressionnant d'essayer de s'y baigner, parce que la densité est telle qu'on flotte vraiment beaucoup et qu'il est difficile de nager. Nous avons fait cette expérience il y a très longtemps avec Boschka. Il y a autour de cette région des espaces désertiques désolés, inhabités. Et nous trouvons des expressions de cette nature à bien des endroits dans l'Ancien Testament. Ces terres salées, désolées, inhabitées, semblent être l'objet de quelques châtiments dont le sel aurait été l'instrument. La femme de Lot fut ainsi changée en statue de sel. Et sur la cité vaincue, du sel était répandu pour que plus rien ne pousse à cet endroit. Nous avons là un des éléments de la fonction du sel. Ici, le sel est l'agent de la stérilisation de la terre, de la privation de la fertilité et de la vie. Cependant, dans ces endroits désolés et dans ces terres désolées, il y a aussi une espérance. C'est pour cela que nous avons lu la parole prophétique d'Ézéchiel, qui annonce la venue de l'eau vivifiante qui va rendre fertile la terre salée. Un jour, le fleuve jaillit du temple assainira la mer salée, si bien que la vie surabondera même en ces lieux. Mais l'action de stérilisation du sel est aussi une action de purification. C'est ce qui nous est raconté dans l'histoire d'Élisée. Jéricho est une ville agréable, dans une belle situation, mais dans le récit que nous avons lu, elle a un gros problème. C'est que l'eau y est mauvaise. L'eau est polluée, impure, amère. Il y a les deux aspects de Jéricho. Une cité agréable et une eau imbuvable. Le plus et le moins. Rien de nouveau sous le soleil. Et le prophète Élisée a purifié ces eaux de Jéricho avec du sel, c'est-à-dire du chlorure de sodium. Et le chlore, depuis des temps immémoriaux, c'est un élément fondamental dans le sel, c'est du chlorure de sodium. Le chlore est toujours un agent de base pour la purification de l'eau, celle des piscines comme celle qui coule dans nos robinets. Alors je sais qu'il y a aussi d'autres éléments maintenant plus récents, mais le chlore, le sel, reste vraiment un élément de base pour la purification de l'eau. Nous avons là à la fois la réalité et l'image. Il y a des sources d'eau pure et des sources d'eau polluée, et on a besoin de purifier ces dernières. Pour Jéricho, l'eau était malsaine et en conséquence, la terre était infertile. D'où la demande des habitants au prophète Élisée. Et Élisée répond. Son action de purification par le sel exprime la parole agissante de Dieu en faveur de cette ville de Jéricho. L'eau devient saine et la terre devient fertile. Et la vie revient pour la durée. Le sel a donc une action purificatrice. On frottait aussi les nouveau-nés avec le sel. Et puis il y a cette expression que nous trouvons dans l'évangile selon Marc et qui est étonnante. Tous, tout être humain, sera salé par le feu. Vous êtes le sel de la terre, dit Jésus à ses disciples et à nous, parce que vous avez été purifiés par le sang de Jésus-Christ et par sa parole. Vous avez été purifiés par la foi, par le baptême qui en témoigne, et par l'obéissance à la vérité. Vous êtes à la fois les objets et les témoins de cette purification, et vous êtes les acteurs de cette vie purifiée dans le monde où par votre conduite droite, vos pensées régénérées, vos paroles de vérité et vos actes, vous êtes le sel de la terre. Des éléments extrêmement important à souligner, qui disent beaucoup de choses dans quelques mots très ramassés. Vous avez été, vous les chrétiens, vous les enfants de Dieu, vous avez été d'abord purifiés de vos péchés, sauvés, régénérés. Et à partir de là, vos pensées, vos actions, votre comportement portent la marque de cette purification, de cette régénération, de cette vie nouvelle. Et par votre façon de penser, d'agir et de vivre dans le monde, vous êtes témoin de cette action de Dieu qui régénère et qui purifie. Vous êtes le sel de la terre. Nous l'avons mentionné, le sel représente aussi l'alliance, c'est-à-dire un engagement entre Dieu et l'être humain et un élément de durée pour la réalisation de cette alliance. Dans les rites du culte, Dieu demande à son peuple de saler toutes les offrandes, de ne pas offrir d'offrande qui ne soit pas salée. On ne l'oubliera jamais, justement car le sel représente l'alliance voulue par Dieu. On peut bien sûr penser à la fonction du sel qui consiste à conserver les aliments. La fonction conservatrice du sel découle de son action purificatrice. Et nous pouvons reporter cet élément de définition à la vie humaine et à son témoignage dans le monde. C'est par l'action des chrétiens dans le monde que le monde peut continuer à vivre. Fonction conservatrice. Bien avant la découverte des congélateurs, les salaisons étaient, depuis les temps les plus reculés de l'histoire, les moyens de conserver les aliments, en particulier ceux qui viennent de la mer, les poissons, mais aussi bien sûr les viandes. Ainsi, le sel se révèle être une des denrées les plus nécessaires à la vie humaine. Le sel a de l'importance. L'expression « manger le sel du palais » signifiait « travailler au service du roi ». Et nous ne le savons peut-être plus, mais il est bon de le rappeler. Aujourd'hui encore, recevoir son salaire, c'est recevoir sa ration de sel. C'est la même racine, latin salarium, ration de sel, c'était l'indemnité du soldat. Comme le sel a donc cette propriété de conserver les aliments, il en vient à signifier la valeur durable du contrat, et c'est ainsi qu'on parle d'une alliance de sel. C'est un pacte perpétuel. Mettre du sel sur les offrandes à Dieu, c'est pour le croyant, le membre du peuple, en quelque sorte, signer son don et confirmer son engagement dans l'alliance avec Dieu et lui répondre. Vous êtes le sel de la terre, nous dit Jésus. Vous êtes ceux avec qui Dieu s'est engagé dans une alliance. Ceux qui témoignent dans le monde de cet engagement. Vous êtes ceux qui manifestent sur la terre, au cœur de l'humanité, la présence de Dieu, son action pour le maintien de la création, la conservation de la société et du lien social. Vous êtes le signe d'une présence au milieu de la solitude, le signe d'un amour dans une multiplicité d'individualisme, d'égoïsme et de haine. Le signe d'une espérance qui donne le goût de vivre dans un monde rongé par les signes de la désespérance. Grâce à vous, le monde dure. Le sel donne de la saveur. Le sel donne du goût aux aliments. C'est aussi ce sens que Jésus a voulu relever lorsqu'il a dit à ses disciples « Vous êtes le sel de la terre » et il y ajoute une note particulière d'avertissement « Si le sel perd sa saveur, il ne sert plus à rien. » Quelle parole ! Comment le sel peut-il perdre sa saveur ? Le sel récolté en Palestine, en particulier celui de la mer Morte, est de médiocre qualité. Il contient beaucoup de cristaux n'ayant aucun pouvoir salant. Lorsque ce sel est exposé à l'humidité, le chlorure de sodium fond et seuls les cristaux non salants restent. Ces cristaux ont l'apparence du sel, mais pas la réalité du goût qu'il doit donner. Je répète cette phrase, ces cristaux ont l'apparence du sel, mais pas la réalité du goût qu'il doit donner. C'est une parole à méditer dans son sens imagé et spirituel. Il faut, dit Jésus, que vous soyez ce que vous êtes devenu par la grâce de Dieu, et que le monde le voit, le sente, le touche, le goûte et le savoure. Il ne faut pas que quelqu'un qui rencontre et qui connaît un chrétien ne reconnaisse pas en lui une saveur particulière de la vie. Je me permets de redire aussi cette phrase. Il ne faut pas que quelqu'un qui rencontre et qui connaît un chrétien ne reconnaisse pas en lui une saveur particulière de la vie. Un chrétien ne doit pas être pour les autres comme un plat, comme un aliment sans goût. C'est vous qui donnez au monde le goût de la vie, le goût de vivre, le sens de la vie, la beauté de la vie. Jésus confirme cette belle qualité du croyant, s'exprimant en une belle mission dans le monde. « Ayez du sel en vous-même », dit-il dans l'évangile de Marc. Parole confirmée par celle de l'apôtre Paul, qui recommande que votre parole soit toujours bienveillante, relevée de sel, avec l'art de répondre à chacun comme il faut. Du sel pour tous et pour tous les goûts, plus ou moins salé selon le goût de chacun, au goût de chacun. Belle diversité, belle adaptation, belle vocation. Un seul élément, le sel, mais dosé différemment suivant les personnes et les aliments, et une belle variété de goûts. Mais du sel utilisé pour saler. Vous êtes le sel de la terre, pas de la mer, pas de la salière. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Vous êtes le sel de la terre, vous n'êtes pas appelé à rester uniquement entre chrétiens. Vous êtes pour les autres. C'est votre vocation. C'est quoi le sel de la vie? La joie, la bonté, la patience, le dévouement. La capacité de voir et de faire voir le bien, le beau, le vrai, s'émerveiller, espérer. Écoute, regarde. L'amour, la solidarité, le coup de main, le sourire, l'adaptation des paroles, la propos qui vient de l'attention à l'autre. Mais je n'ai pas oublié cette parole qui dit que notre parole soit toujours relevée de sel. On pourrait être inquiet à cette invitation, à l'à-propos dans les paroles. Quelqu'un dira, moi je ne sais pas parler, je suis maladroit en parole. Mes paroles peuvent non seulement ne pas exprimer mes sentiments, mais même les trahir. C'est vrai. Rassurez-vous, mes frères et sœurs, qui ne dit pas de bêtises? Parfois. Qui a toujours l'intelligence et la sensibilité et l'art pour dire toujours ce qu'il faut au bon moment et de la bonne manière, pour être adapté à chaque cas? Mais dans ce genre d'affaires, on est deux. Il y a celui qui dit quelque chose et il y a celui qui en face écoute ce qui est dit. Et il faut être deux pour bien se comprendre. Si nous pouvons être en souci parce que nous ne savons pas trouver les bons mots, etc., il faut aussi que celui qui écoute ait l'interrogation symétrique de l'autre côté qui est sûr de toujours bien recevoir ce qui est exprimé. Et là aussi, il y a une responsabilité, pas seulement du côté de l'émetteur, mais du côté du récepteur. On voit parfois des personnes prendre feu avec des expressions qui, nous sembleraient pas du tout de cette nature à enflammer quoi que ce soit. Il faut, derrière les mots, entendre le cœur de celui qui les exprime. Il y a un aspect formel, et l'aspect formel de la parole relève de la sagesse. Et la parole nous dit que si on manque de sagesse, on peut la demander à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Ça devrait nous rassurer. Et puis, il y a un aspect de fond. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le fond de ce que nous exprimons, c'est ce qui remplit notre cœur. Un auteur de l'Ancien Testament dit « Je suis plus intelligent que mes maîtres, car je médite tes paroles. » Nous nourrir de la parole de Dieu, c'est vraiment trouver la source inépuisable pour bien penser et bien parler. On n'est jamais dans l'erreur quand on est rempli de bonté et d'amour. Jésus est notre pain. Jésus est notre source. Dans un instant, nous allons chanter au dernier cantique « Jésus te confie une œuvre d'amour ». Nous voulons remercier notre Père pour sa parole. Merci Seigneur de ce que tu fais de nous et de ce que tu nous dis. Donne-nous d'être joyeusement goût de vie pour les autres. Non pas vie salée, mais par le sel de ton alliance, vie savoureuse. Amen. Je vous invite à chanter ce cantique de tout notre cœur. Dieu, Jésus te confie une œuvre d'amour. Levons-nous pour chanter.